Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre, priorité à l'info. Nous sommes à vos côtés pour vous aider à traverser cette crise du Covid-19. On s'intéresse à l'hôtellerie de plein air. 90% de réservations en moins sur les mois d'avril et de mai. Pour en parler avec nous, Michel Dubier, le président de la Fédération régionale de l'hôtellerie de plein air pour le secteur Midi-Pyrénées. Bonjour Michel Dubier.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre pour Le Goût d'entreprendre. Première question, un constat d'abord Michel. Les vacances de Pâques marquent habituellement le début de la saison et cette année ce sera complètement différent. Toutes les réservations bien sûr ont été annulées.
Oui, toutes les réservations du mois d'avril et notamment pour les vacances de Pâques ont toutes été annulées, au moins reportées par les clients puisqu'ils avaient la possibilité de reporter leurs vacances. Même celle de mai, avril, on pense qu'avril et mai seront des mois très très difficiles.
Ce sera des mois
sans oublier mars, bien sûr, puisque nous avons commencé le confinement depuis le 16 mars. Et nous, l'hôtellerie de plein air, nous avons une fermeture administrative jusqu'au 15 avril. Donc, difficile de recevoir des gens dans ces conditions. Voilà.
Tout à fait, même impossible d'ailleurs.
Et impossible.
Difficile aussi pour le moment, on dit bien, de se projeter.
Oui, c'est très difficile parce qu'on ne sait pas où on va. Vous le voyez bien, le gouvernement nous annonce du confinement de 15 jours en 15 jours. Mais nous, hôtellerie de plein air, on s'est bien mis dans la tête que ça ne serait pas une saison comme les autres. Mmh. Et je pense qu'on va être confinés au moins jusqu'au 10 mai. On ne voit pas comment on peut nous ouvrir nos établissements dans de telles conditions avec les ponts qui arrivent, les ponts du 1er mai, du 8 mai. Ça serait assez dangereux. Donc, je pense que avant le 10 mai, on ne peut pas espérer une ouverture.
Quoi. Voilà, ce serait trop précipité.
Tout à fait.
Il faut prendre le temps, donc il faut prendre le temps aussi de travailler à l'après. On va essayer de rester positif, puisque vous, de votre côté, vous êtes en lien étroit avec la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air et vous réfléchissez déjà à l'après-confinement, au retour à une situation plus ou moins normale. Est-ce qu'on peut dire déjà, Michel, que la situation sera normale cet été ?
Non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle soit normale parce que après le déconfinement, je pense que nos clients auront quand même une crainte. Hein. Il y aura une crainte qui sera là, qui sera présente. Il y aura la peur du recommencement, la peur du virus qui revient. Même si on sait que avec la saison un peu plus chaude, je dirais, on nous dit que le virus va s'estomper, va partir, mais il y aura quand même une crainte par rapport à nos clients. Donc on travaille déjà en période de confinement, on est en train de rassurer nos clients, puisqu'on leur écrit tout ce qu'ils ont commandé, ils ont reçu un petit courrier, du moins pour certains campings qui essayent de garder au maximum les clients. On a envoyé des courriers de rassurance surtout. Et ensuite, on travaille effectivement en termes de communication avec la Fédération nationale. Et donc, on s'associe à la Fédération nationale parce qu'il faut passer un message fort et surtout unique. Voilà, c'est pas la peine d'aller inventer 36 messages. Je crois qu'il en faut surtout des messages qui arrivent de la Fédération nationale et surtout des notions de nature, certes, mais également d'hygiène.
Ce sera une question centrale pour le retour des clients dans vos établissements, la désinfection.
La désinfection, tout à fait. Tout à fait. Il faut qu'on rassure au maximum nos clients. Il faut que nos clients, quand ils vont venir dans nos établissements, reviennent en toute confiance. Voilà. Qu'on évite le maximum de propagation du virus, même s'il va être, j'espère, que lorsque nous aurons le déconfinement, on pourra travailler beaucoup plus sereinement et ça, il faudra bien le faire ressentir par rapport à nos clients. Quoi. Voilà. C'est le but, si vous voulez, de la communication aujourd'hui au sein de la Fédération nationale.
Voilà, c'est ça, c'est rassurer, effectivement. Rassurer aussi les entreprises, puisque l'impact du virus est considérable dans le secteur du tourisme, dans les emplois saisonniers qui vont être annulés, reportés, différés. Comment réagissent aujourd'hui les entreprises du secteur? Il n'y a pas encore d'embauche de saisonniers. On est en stand-by?
Alors, tous les contrats qui étaient traités bien avant la saison, parce qu'il y en avait, hein, parce que bon, la saison aujourd'hui, juillet-août, on va dire, il y a à peu près 7% d'annulation, à peu près. Donc, juillet-août reste encore correct, je dirais. Donc, si ça reste comme ça, effectivement, tous les contrats qui étaient passés avant le confinement pour juillet-août, cela certainement sera honoré. Mais après, c'est vrai qu'on va marcher malheureusement au jour le jour et ça sera au cas par cas en fonction des arrivées des clients. Mais on peut pas, effectivement, on peut pas assurer. Il y aura de la casse en termes de, je dirais, en termes de recrutement salarial parce que chacun va faire un peu à sa façon et démarrera, je dirais, les salariés saisonniers au fur et à mesure que le monde arrivera. On peut plus dire voilà au 14 juillet on va être au complet. Voilà,
c'est ça.
C'est utopique quoi. On peut pas le dire.
Voilà. C'est ça.
Donc c'est vraiment du coup par coup et au jour le jour et voilà. Ça sera vraiment une saison particulière. Ça c'est vrai.
On risque d'assister également à un changement en termes de clientèle l'année dernière dans notre région. Hein, beaucoup de touristes étrangers au printemps, en été. Cette année, on risque de voir revenir la clientèle locale ?
Alors, on espère, parce que les étrangers, c'est vrai, il faut pas y compter, hein, puisque les Anglais sont confinés jusqu'au 30 juin, ils ont les frontières fermées, les Hollandais aussi, qui sont des bassins pour nous, hein, des bassins
oui,
de clientèle étrangère, hein. Donc eux, c'est sûr, on ne les aura pas. Par contre, voilà, on compte énormément sur la clientèle de proximité. Sur laquelle nous allons faire un effort de communication, clientèle de proximité et ensuite la clientèle, je dirais, de passage qui parce que je pense qu'après le confinement, les gens vont avoir envie quand même d'aller se promener un petit peu,
de
et de sortir
l'air.
De chez eux,
oui,
de
oui.
prendre l'air. Donc voilà, on compte énormément sur cette clientèle et j'en profite pour demander aux Français mais de rester pour une fois un petit peu franco-français, voilà, à passer ses vacances chez soi, en France, près de chez soi, ou un peu plus loin, mais voilà, il faut relancer l'économie et l'économie touristique ne passera que par la présence des clients français.
C'est ça, des locaux en fait. À deux
des
heures
locaux,
de chez soi,
bien sûr.
On peut s'évader, on peut très bien s'évader à deux heures de chez soi.
Bien sûr, et se dépayser complètement.
Vous êtes également en commande d'un camping à Argelès-Gazost.
Oui.
Comment se passe en fait l'ambiance en ce moment dans votre camping? Vous profitez de cette période d'accalmie pour faire des travaux?
Alors, des travaux, je dirais du quotidien, parce que les gros travaux qui sont assurés par les entreprises, ils sont fermés, hein, ils sont arrêtés. J'espère qu'on pourra continuer à les reprendre rapidement, qu'on pourra les reprendre pour pouvoir finir au moins être prêt pour le mois de juin. On continue à travailler surtout sur l'entretien, hein, parce que on a de l'entretien saisonnier, je dirais, puisque nous avons une saison d'hiver et une saison d'été. La saison d'hiver a été complètement loupée entre les gilets jaunes et le coronavirus. L'hiver a été loupé. On enregistre du moins 60% en termes de chiffre d'affaires. Voilà, et le début de la saison d'été sera également loupé, mais on est obligé d'entretenir. On a beaucoup d'espace vert chez nous, hein. Donc beaucoup de tentes, beaucoup d'aménagements paysagers et puis la mise en route pour l'été. Donc on continue à travailler, mais dans des conditions qui ne sont pas optimales. Hein. Voilà, on n'a qu'un ou deux salariés sur le camping qui ne se rencontrent pas, ils travaillent chacun de leur côté. Voilà, c'est assez compliqué quand même.
Quelle est la situation dans le secteur de Lourdes qui accueille pendant le printemps et l'été de nombreux rassemblements?
Catastrophique. Je pense que Lourdes, ils ont des annulations de pèlerinage les unes derrière les autres. Pour Lourdes, c'est vrai que ça va être... Alors eux, par contre, une saison, parce qu'un pèlerinage ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain.
Bien sûr.
Ça ne peut pas se reporter. Je ne sais pas, je crains qu'ils aient une saison très, très difficile.
La saison risque d'être très, très compliquée, effectivement.
Très compliquée sur Lourdes. Ouais. Et alors, de facto, chez nous, parce qu'on sait très bien que les pèlerins qui viennent sur Lourdes, le vrai pèlerin restera sur Lourdes et ira un petit peu sur quelques sites départementaux. Mais le touriste qui vient sur Lourdes vient aussi dans nos établissements. Et donc, là aussi, on risque d'avoir une perte de ce côté.
Vous allez le sentir, oui, de votre côté.
Ah ben oui, oui.
Vous êtes accompagné par la région ?
Oui. Alors là, oui, région, État. Excusez-moi. La région, l'État d'abord a mis en place donc cette prime de 1500 euros, ce qu'on appelle le fonds de solidarité, de 1500 euros à toutes les entreprises de 0 à 10 salariés, hein, qui est accessible à tout le monde, même à tout l'HPA, puisque nous sommes en fermeture administrative. Donc nous avons droit à cette prime de 1500 euros. Ensuite, il y a des primes régionales, hein, qui vont arriver. Notamment pour ceux qui n'arriveraient pas à obtenir soit cette prime, soit des reports de prêts, puisque vous savez qu'également l'État a demandé aux services bancaires, à la BPI, de reporter tous les emprunts, toutes les mensualités sur 6 mois. Alors là, nous, on demande un petit peu plus, parce que nous, comme nous sommes une activité saisonnière, 6 mois, ce n'est pas suffisant. On sait très bien qu'on ne va pas faire la saison 2020 sur de bonnes conditions. On demande carrément un report sur 12 mois, voire 18 mois, c'est-à-dire après la saison 2021. Parce que si on reste sur 6 mois, énormément d'entreprises chez nous, de gestionnaires de camping, ne pourront pas honorer les échéances. Ça, c'est clair. Et donc, il y aura énormément de difficultés. Il faut que l'on passe la saison 2021 pour pouvoir espérer récupérer ce manque à gagner que nous allons subir en 2020. Donc voilà, c'est la demande déjà pour nous, c'est celle-là, c'est un report au moins de 12 mois, voire 18 mois après la saison de 2021. Et sinon, après, il y a d'autres aides régionales, bien sûr, que nous attendons. Là, je dois dire que l'État et les régions se sont vraiment mobilisées.
Se sont mobilisées, oui, pour aider les professionnels.
Oui, et ont bien compris qu'il allait y avoir une vraie difficulté économique au sein des entreprises.
Et qu'il y avait urgence.
Exactement.
Michel Duby, on va terminer sur quelque chose de positif. Vous êtes prêts, vous, les professionnels de l'hôtellerie de plein air, vous êtes prêts à accueillir les vacanciers ?
On sera prêts. Dès que le confinement sera annoncé, alors là aussi, on sait qu'il va être annoncé pas d'un coup, ça va être par étapes, mais on sera prêts à accueillir les clients, il n'y a pas de problème, tous nos établissements seront prêts, propres, bien entretenus et bien désinfectés, ça je peux l'assurer, puisque nous travaillons dessus. Et donc nous attendons nos clients, nos touristes avec impatience et ils seront reçus avec une grande attention, particulièrement une grande attention. Pour l'instant, restons chez nous, quoi. Restons chez nous, parce qu'on voit des choses qu'on ne devrait pas voir en temps de confinement. C'est un souci national et mondial. Le président l'avait bien dit, c'est une guerre. Mais je crois qu'il y a... Il n'y a pas de combattants, c'est sûr, mais il faut rester chez soi, ça c'est clair. Restons chez nous pendant le moment du confinement, et plus on restera chez nous, et plus le confinement arrivera de bonne heure. Voilà, c'est surtout ce que je voulais passer, que je voulais dire.
C'est très très important de le rappeler. Merci beaucoup Michel Dubier. Continuez à nous écrire entreprendre@radioprésence.com.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût d'entreprendre. Nous restons près de vous pour vous aider à traverser cette crise liée au Covid-19. Partout, la solidarité s'organise pour aider à la fabrication de respirateurs, de masques, de visières. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec l'association Red Lab, le réseau des Fab Labs d'Occitanie. Bonjour Antoine Ruscoletti.
Bonjour.
Vous êtes un des représentants de l'association Red Lab. On le disait, c'est le réseau des Fab Labs d'Occitanie. Vous travaillez main dans la main avec le mouvement Makers. Que faites-vous concrètement ? Peut-être on pourrait rappeler ce qu'est un Fab Lab dans un premier temps.
Oui, tout à fait. Alors un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication partagé. On va y retrouver tout un tas d'outils, de machines, mais aussi d'ordinateurs qu'on va utiliser pour produire des objets, mais aussi les réparer et les améliorer. Ça, c'est le premier moyen. Et après, c'est là où réside aussi souvent une communauté et des savoir-faire qu'on essaye de mutualiser et de partager au plus grand nombre.
Vous détenez des imprimantes 3D, entre autres.
Oui, entre autres, on a pas mal d'imprimantes 3D, mais aussi des découpes laser. Ça va aller vraiment de la fabrication numérique, mais aussi à de la fabrication plus conventionnelle, où on va utiliser aussi tout ce qui va être des ciseaux à bois, des scies sauteuses, tout ce qu'on peut retrouver pour fabriquer des objets.
Alors, que faites-vous concrètement aujourd'hui? Vous avez décidé de porter assistance aux soignants en fabriquant des masques, des visières?
Alors, nous, notre capacité, c'est de pouvoir produire et de concevoir des objets très rapidement. Donc, on a d'abord saisi le problème, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait, grâce à nos moyens presque maison, de pouvoir apporter une solution. Et donc, depuis, on a conçu des plans et on les a reproduits tous dans nos différents Fab Labs qui sont situés dans toute la région. Et donc, ça va être à la fois des visières, des masques en tissu. Les visières sont plutôt faites soit à la découpe laser, soit à l'impression 3D. Et après, on les distribue gratuitement, surtout aux soignants, mais aussi à tous les aidants, ceux qui travaillent pendant cette période compliquée.
Antoine, à partir de quand vous êtes-vous dit il faut faire quelque chose, il faut qu'on agisse?
Alors, nous, c'est depuis le début, même avant le confinement, on savait que, on pas forcément sur des objets sanitaires, mais on savait qu'il y avait quelque chose qui se préparait, donc on était plutôt sur de la production contenue éducatif et culturelle.
Ouais.
Pour accompagner ce futur confinement. Et après, quand il y a eu l'apparition de ces manques d'objets sanitaires, là, on s'est quasiment au moment où ça a été dit, on s'est mis à produire des masques, à produire des visières. Donc, c'est depuis maintenant 3 semaines.
3 semaines de production, combien d'objets avez-vous produit?
Alors là, on a dépassé la barre des 10 000, quand même qu'on est à 11 000 pour les visières. Et pour les masques, on est associé avec un réseau de couturières qui sont basées sur toute l'Occitanie. Et là, c'est plus de 2 000 masques qui ont été distribués.
D'accord. Mais c'est alors ça paraît peu vu nos besoins, effectivement, mais c'est important.
Ah, personnellement, je trouve que c'est assez impressionnant ce qu'on a réussi à produire. Normalement, que ce soit les Fab Labs ou les particuliers, on n'a pas vocation à produire en série.
Bien sûr.
Là, grâce à la fabrication distribuée, en multipliant les lieux et les personnes, on a pu produire en toute sécurité, parce qu'on a vraiment quand même une structuration où chacun est protégé, et des objets en grande quantité, et surtout, c'est des objets qui sont lavables et réutilisables. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné, par exemple, 100 visières à un service médical, il peut les réutiliser jusqu'à la fin du confinement, voire plus longtemps s'il y a nécessité.
C'est ça, les désinfecter, les réutiliser.
Oui.
Comment vous trouvez la matière première?
Alors, au tout début, c'était vraiment sur nos fonds propres. Donc, pour les masques en tissu, c'était les tissus qu'on avait chez soi. Après, on les a sélectionnés. Pareil pour l'impression 3D, c'était du plastique qu'on avait chez nous. Après, très rapidement, on est allé, vu qu'on est un réseau qui est établi, on est allé contacter nos fournisseurs quotidiens. On leur a dit, voilà, il y a cette situation-là. Et donc, on a eu tout un réseau de nos distributeurs qui ont répondu présent. Donc, pendant un long moment, ils nous ont tout donné gratuitement. Et après, on a commencer à payer à prix comptant toutes les fournitures pour produire ces visières et ces masques.
Vous avez été entendu par vos fournisseurs, ils vous ont, j'allais dire, ils vous ont aidé, ils vous font payer certes la matière première, mais peut-être à un prix plus intéressant que si on était dans la vraie vie, on va dire.
Pour la plupart, oui, c'est ce qui s'est passé. Par exemple, avec Emotion Tech, qui est un des plus gros fournisseurs de filaments 3D. Eux, ils ont tout de suite dit, on vous
On vous
envoie.
aide.
Ils n'ont même pas cherché à savoir si à la fin on pourrait les payer ou pas. Ils ont donné. Et donc la plupart, dans tous les cas, c'était avec prix coûtant. Il y a très très peu de monde comme nous. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a certes la matière première, mais après tous les frais humains ou tout ce qui est de la logistique, ça, c'est toujours en termes bénévoles.
C'est ça, en termes de bénévoles, ce qu'on appelle les makers, hein, ce réseau de makers, qui veut dire fabriquer tout simplement, sont des gens, des bénévoles qui donnent de leur temps, de leur énergie, et qui font preuve de solidarité.
Exactement. Vraiment que du temps humain qu'on donne, plus pour produire ces objets-là, et on participe à l'effort collectif. On ne s'est pas posé de questions au tout départ sur comment on allait faire pour l'avenir. Parce que, par exemple, les Fab Labs, ce sont quand même des structures, et donc il va falloir qu'on pense un peu plus à l'avenir après. Mais pour le moment, on s'est tous d'abord construit pour répondre aux besoins immédiats. On avait une possibilité d'aider la société, donc on l'a fait et on est allé chercher les bonnes solutions.
Antoine, ça représente un réseau de combien de personnes qui travaillent actuellement?
Alors, là,
sur
nous,
ces
on
produits,
est...
hein, essentiellement, on est d'accord sur les visières et sur les masques.
Alors, en termes humains, si on prend que les Fab Labs, déjà, on est 30 structures de Fab Labs avec à peu près entre 3 et 4 personnes qui travaillent dans chaque structure. Si on prend après avec les mouvements de particuliers avec qui on travaille, qui sont les gens qui viennent utiliser les Fab Labs la plupart, on doit être autour de 200 personnes, voire 300 personnes qui sont au quotidien en train de produire des objets.
Pour l'Occitanie ?
Sur toute l'Occitanie.
Sur toute l'Occitanie, c'est déjà bien.
Ah oui, c'est des gens qui travaillent, on travaille tous presque, c'est des journées plus que complètes.
Ouais. Comment vous recueillez les demandes alors ? Qui vient vous voir ? Qui vous appelle ?
Alors au début, c'était vraiment que le personnel soignant. C'est eux qui ont lancé les premières alertes. Donc on répondait, c'était presque du direct, ils savaient où appeler, parce qu'on est quand même plutôt bien référencé sur ces questions-là, et on a l'habitude de travailler sur des questions de santé. Et rapidement, en fait, la demande, notamment avec ceux que nous, on a commencé à appeler les aidants, c'est-à-dire les personnels de caisse, les chauffeurs routiers, etc., qui, eux, ont commencé à nous faire quelques demandes. Et après, par le bouche à oreille, c'est devenu assez, assez important. Et donc, après, on a dû même, nous, se structurer un peu plus. Et donc là, sur notre site web, on a rajouté un formulaire où les gens peuvent venir. Donc, on a appelé ça un appel aux besoins, peuvent venir poser leurs demandes. Et nous, après, ça nous permet de mieux la structurer, de mieux la hiérarchiser et de pouvoir y répondre au plus vite.
Quels sont vos besoins aujourd'hui ? J'imagine que vous n'arrivez pas à produire tout ce qu'on vous demande.
Non, on n'y arrive pas du tout. La demande, elle est tellement exponentielle, surtout que depuis maintenant quelques temps, avec les mesures de l'État qui demandent à ce que tout un chacun soit protégé quand il sort, avec même un masque en tissu, c'est que tout le monde a envie d'être protégé, ce qui est bien normal. Vous savez que ça grossit, donc nous, c'est trouver du matériel, continuer à poursuivre ce qu'on a. Alors, ça peut être juste de la donation de matériel, parce qu'on travaille aussi sur des objets avec du matériel du quotidien, avec, par exemple, c'est ce qu'on appelle la technologie low-tech, c'est sans technologie. Et donc, c'est des visières qu'on a développées avec ce qu'on appelle du feuillard, c'est ce qu'on retrouve autour des attaches-colis, avec une feuille PVC qu'on retrouve sur nos dossiers. Avec ça, on peut se faire une visière et être protégé à l'extérieur. Pareil pour le tissu. Et donc, on demande soit des donations de ce matériel-là, soit une donation financière pour pouvoir acheter la matière première. Ou en dernier lieu, là, grâce à ce type de visière-là, on appelle chaque particulier qui veut donner de son temps à produire de chez lui. On lui emmène un kit et il produit de chez lui comme s'il était une petite usinette. Et on pourra les redonner à tous et multiplier la production.
Antoine, vous lancez un appel aujourd'hui sur Radio Présence ?
Oui, je pense que oui.
Vous lancez un appel pour du matériel, on peut vous contacter, on peut directement vous apporter ou vous viendrez chercher le matériel ?
Alors, on vient les chercher, on a tout un service de logistique qui... Enfin, ça, c'est les institutions publiques qui ont commencé à nous aider. Et donc, on vient directement à vous récupérer ce qu'on a besoin pour continuer à produire.
Est-ce que vous avez été contacté également par les collectivités ? Comment vous travaillez avec les collectivités locales ?
Alors, on a été contacté avec eux aussi. Ils sont dépassés. Cette situation, elle est assez inédite. Donc, c'est-à-dire que tous les secteurs de nos sociétés sont dépassés. Donc, petit à petit, ça revient à la normale. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Mmh. Et donc là, même du côté des autorités publiques, c'est un peu plus structuré, etc. Et donc, on a plus de répondants. Au début, on se sentait un peu seul. Mais là, c'est vrai qu'il y a à la fois les demandes, et mais aussi une aide qui est apportée, cette aide logistique-là va faire énormément de bien au dispositif en place.
Quel est le message que vous voulez faire passer, le conseil que vous pouvez donner là aujourd'hui, Antoine ?
Je pense que pendant longtemps, on a pensé que la fabrication distribuée, donc ça veut dire de faire par soi-même et avec les autres, c'était quelque chose qui était un peu utopique. Ce qui a été montré, c'est qu'on savait produire tous ensemble, que ça soit de la connaissance ou des objets du quotidien et des objets d'urgence. Et que ça, il faut le continuer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se refermer sur son propre chez-soi, mais vraiment essayer de commencer à partager tous ensemble, parce que c'est nous tous qui avons les solutions. Et c'est vraiment ça que personnellement, un des rares points positifs de cette situation exceptionnelle, je vois, c'est celui qu'on s'est tous connectés pour produire ensemble.
Et tous ensemble, on va plus loin.
Exactement.
Et mais en tout cas, pour l'instant, on reste chez nous.
Oui, ça, c'est la priorité. Tout le monde reste chez soi. Et ceux qui veulent donner du temps à l'effort collectif, c'est toujours en sécurité. On a tout mis en place pour que ça soit fait en sécurité. L'objectif, c'est d'aider l'autre, mais d'abord de s'aider soi-même.
Antoine, est-ce que vous pouvez nous donner une adresse, un site internet où vous contacter facilement?
Alors, le plus simple, c'est d'aller sur redlab.fr, donc redlab.fr. Vous allez dessus, il y a toutes les choses qu'on vient de parler. C'est-à-dire qu'il y a l'appel aux besoins si vous êtes quelqu'un qui doit se protéger. Il y a l'appel aux dons si vous avez du matériel à donner. Et après, il y a toutes les informations pour l'après. Ça veut dire qu'on travaille aussi sur... on donne du contenu éducatif, culturel, si vous voulez vous occuper. Si vous voulez faire des visières, il y a toutes les infos dessus.
Merci Antoine d'avoir répondu à nos questions. Bravo pour cette initiative. Bravo aux makers qui se relaient pour fabriquer masques et visières, ô combien indispensables. Sachez que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet, Le Goût d'Entreprendre, radioprésence.com, et également sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire entreprendre@radioprésence.com.